Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Au sommaire de cette émission, en première partie, beaucoup d'éclectisme je trouve, parce qu'on va parler de trois romans, je crois très très différents, et dans les thèmes, et dans la narration, et dans les styles. Voilà, et en deuxième partie, nous aurons la joie d'accueillir Sandrine Colette, une petite jeune certes, et surtout une nouvelle venue, mais on va parler de son deuxième roman, donc c'est plus tout à fait une nouvelle venue. Jacques, est-ce que, comme à son habitude, Ayerdahl flirte avec plusieurs genres ?
Exactement, donc on va commencer avec un roman, le nouveau roman d'Ayerdahl, qui s'appelle Bastards, en anglais.
On dirait pas avec l'accent.
Voilà, est publié au Diable Vauvert. Alors, comme tu dis, en fait, avec un roman d'Ayerdahl, en fait, on sait jamais vraiment à quoi on s'attend quand on va l'entamer. Science-fiction, polar, roman noir, thriller. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'on va passer un grand et bon moment, parce que ses livres sont toujours un petit peu épais et toujours excellents. Alors ici, cela commence à New York, avec la panne d'écriture d'un écrivain à succès. Il s'appelle Alexander Bird. Et il vient d'avoir le Pulitzer, mais il a plus rien, il sait plus quoi écrire. Alors il va suivre les conseils d'un ami, et il va enquêter sur une bizarre affaire qui traîne dans les journaux, une mamie à chat, une dame assez vieille qui a descendu trois voyous qui voulaient l'attaquer dans un coin sombre, et qui sont retrouvés en sale état.
Pige les mamies.
Puis, pas très longtemps après, au début de cette enquête-là, en fait, on va passer par un passage qui est très espionnage. Et alors là, carrément jubilatoire. Un brin loufoque, avec une certaine Bond. Janet Bond. Mais Ayerdahl va tout de suite nous entraîner dans un autre de ces mondes, avec une amulette magique et une maison fabriquée à la Escher. Vous savez, celui qui fait les labyrinthes un petit peu...
Oui, les lézards qui sortent voilà. Du puzzle et qui reviennent dans le puzzle.
Et puis de nouveau, le roman change un peu, le roman vire, il s'accélère. Et là, c'est le thriller qui apparaît au détour d'un chapitre, mais pas n'importe quel thriller. D'abord, c'est très bien écrit. Ayerdahl ne saurait se contenter de faire du...
On ne cite pas de nom.
Je ne ferai aucune comparaison. Et puis voilà, en plein thriller, c'est là qu'apparaît la fantasy. Une fantasy urbaine, bétonnée. On est en plein New York, je vous rappelle, New York quand même, d'après de maintenant, donc d'après les événements du 11 septembre. Une fantasy technologique. Ordinateurs, smartphones, virus, hackers, génomes, mutations sont de la partie. Une fantasy à base de mythologie égyptienne aussi, à laquelle, j'allais dire, on ne croit pas. Personnellement, j'y crois pas une seconde, mais ça fonctionne à merveille. Même si on a quand même parfois du mal à s'imaginer une panthère noire sur une Triumph triple R 675, imaginez-vous, mais bon, lui...
C'est pas le symbole des... Non, c'est une autre marque de voiture qui a
voilà.
Jaguar.
Voilà, mais là c'est Jaguar. Voilà. Jaguar. Mais c'est absolument super. Et puis après, on rejoint le roman noir, car comme très souvent dans les romans de Ayerdahl, l'ennemi, quelle que soit la forme qu'il prenne dans ce roman, c'est toujours la grande finance internationale et le lobby bancaire qui mettent la planète sous serre, sous couvert, sous serre, d'ailleurs aussi bien les serres qui pourraient être les serres d'un oiseau maléfique. Un des petits plus de ce roman, si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est qu'on y croise Colum McCam, Norman Spinrad, Paul Auster et aussi Jérôme Charine.
Quatre romanciers
plutôt géniaux. Et c'est peut-être ce qui place ce roman, enfin, ce qui fait de ce roman une espèce d'allégorie sur le rôle de l'écrivain dans la société et dans les littératures. Mais ça, c'est peut-être
un fantasme personnel
à la lecture de ce roman. Un roman, je le redis, dont la construction et l'intrigue sont absolument parfaites. C'est un roman à la fois touffu et goulu. Et en gros, c'est le must de cet hiver, puisqu'on approche du printemps.
Ah ben moi, je vais vous parler d'un must d'écrivains, dont les romans se passent souvent, le plus souvent à New York aussi. Tu parlais de New York.
Voilà, donc il y a un petit rapport quand même.
Mais c'est une chronique quand même un petit peu mélancolique, un petit peu tristounette. Car je viens de terminer la dernière aventure de John Dortmunder. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le personnage principal du très prolifique écrivain Donald Westlake. Et malheureusement, Donald Westlake est décédé il y a maintenant plus de 5 ans. Et voilà, la dernière aventure vient d'être traduite et vient de paraître, comme à son habitude, chez Rivage Thriller. Donc, cette aventure s'appelle Top Réalité. C'est traduit de l'anglais par Pierre Bondil, qui est un des traducteurs attitré de Donald Westlake. Alors, pour parler quand même un petit peu de ce personnage qu'on suit depuis des années et des années, Dortmunder, c'est un personnage de cambrioleur, très très malchanceux, mais brillant quand même, qui a toujours des idées géniales, mais ce qui est drôlatique, c'est que son créateur, Donald Westlake, donc l'écrivain, fait toujours échouer les coups qu'il monte. Si vous l'avez lu, dans le premier, Pierre qui roule, qui a été réédité chez Rivage il n'y a pas si longtemps que ça, John Dortmunder doit cambrioler 6 fois la même pierre précieuse, parce que chaque fois, elle est récupérée par d'autres choses. Alors, dans ses romans, il y a une Bible, c'est-à-dire des constantes. D'abord, l'équipe qui l'entoure, le meilleur ami de John, Andy Kelp, le plus malin, Stan, le chauffeur, avec sa mère, personnage improbable chauffeur de taxi dans New York.
Et y a un peu sans âge, ça, c'est
voilà,
drôle.
Ouais, ouais. Et il y a toujours une scène où ils doivent aller d'un endroit à un autre endroit et ils imaginent tous les itinéraires possibles pour être le plus rapidement possible où ils veulent aller. Il y a Tiny, qui est le plus gros, hein, puisqu'il était appelé comme ça à cause de son obésité. Il y a le petit jeune aussi. Voilà, et ce qui est aussi assez drôle, c'est qu'il se retrouve, l'autre constante, avant et après chaque coup. La plupart du temps, ils sont plus amers après le coup, puisque la plupart du temps, ils l'ont loupé. Ils vont dans un bar qui s'appelle le Oji Bar and Grill. Pour ceux qui veulent aller à New York, c'est à l'angle d'Amsterdam Avenue et de la 84e.
Mais ça
n'existe
pas.
Sauf qu'il n'existe pas, bien sûr.
Et c'est bien dans cela qu'ils ont chacun leur boisson.
Voilà, ils ont chacun. Donc le barman les définit non pas par leur nom, leur visage, mais il y a le plateau qui est prêt avec la boisson favorite de chacun d'entre eux. Voilà, on en causerait pendant des heures des romans, mais il faut un petit peu parler de ce dernier qui, je ne sais même pas si j'ai donné le titre, Top Réalité. Dans ce dernier, Dortmunder est obligé de participer avec sa bande de potes cambrioleurs à une émission de télé-réalité. En fait, c'est la maman du chauffeur de taxi qui a été un petit peu alpaguée par un producteur. Et apparemment, les producteurs de télé, enfin je dis apparemment, on le sait déjà, apparemment les producteurs télé américains ne reculent devant rien et ils pensent carrément filmer un gang en direct, depuis la préparation du cambriolage jusqu'à sa réalisation. Évidemment, le cerveau enflammé de John, avec ses copains, il pense faire d'une pierre deux coups, propose de cambrioler une société appartenant au consortium de la télé, comme ça... Si jamais ça rate, eh ben, ce serait une fausse vraie télé-réalité. Je ne sais pas si vous suivez. Mais en même temps, de cambrioler l'étage au-dessus ou au-dessous, qui leur appartient aussi. Mais évidemment, ça, sans rien le dire. Dans ce roman, je me permets de le dire, vieux, puisqu'il l'a écrit, il était déjà âgé, le vieux Donald Westlake s'attaque à l'univers impitoyable de la télévision et à ses poubelles, que sont la télé-réalité, et c'est juste génial et jouissif. L'écrivain s'amuse comme un petit fou à nous décrire le producteur, le grand Manitou, la starlette, l'émission précédente qui est produite par la même télé, qui met en scène en fait une scène de maraîcher qui vend sa récolte sur un stand. Ah, ça s'appelle le stand. Et au bout d'un moment, malheureusement, cette émission est obligée de s'arrêter. Voilà pourquoi. Je cite, donc je fais une petite...
Lecture.
Le stand s'est effondré. Aujourd'hui, pendant que nous étions en ville, effondré, le stand de légumes ? Demanda Andy. Mais non, la série dans sa totalité. Il ressentit le besoin d'une lubrification plus poussée. Sans avertir personne, Kirby, le fils cadet, celui qui voulait faire son coming out dans un feuilleton destiné à tous les publics, sans avertir personne, le voilà qui s'enfuit avec le boulet de canon humain d'un petit cirque minable qui fait la tournée des bourgades locales. Au même moment, le fils aîné Lowell, l'intellectuel introverti, décide d'entrer dans un monastère bouddhiste du Vermont où l'on doit faire vœu de silence, et inutile de le préciser, où l'on n'a pas le téléphone. Et ce qui a apparemment déclenché la crise, c'est que leurs parents, sans que rien ne les laissait prévoir, ont annoncé qu'ils divorçaient parce qu'elle est amoureuse du plombier de la famille, que lui-même en a assez des hivers dans le Nord et qu'il s'est trouvé un boulot de gérant de motel à Tahiti. Ils sont tous partis, il n'y a plus personne pour tenir le stand. Il faut reconnaître que ça n'a jamais été une entreprise viable, de toute façon. Que la seule raison pour justifier la présence d'un stand de ce genre dans un endroit pareil, c'était la série de télé-réalité. Alors maintenant, il n'y est plus et nous n'avons plus rien. Voilà. En gros, fou rire garanti toutes les 5 pages, sourire toutes les 10 lignes. On retrouve un Westlake. On pensait qu'il pouvait arriver au bout de ses idées, ben non. Il est inventif à l'extrême. Il y a encore de nombreuses trouvailles de scènes hautement improbables. Voilà. Éclat de rire, sourire, à des démêlés de nos branquignoles favoris. Décidément, l'œil de Donald, évidemment Donald Westlake, va bien nous manquer. Mais enfin, un jour, on relira la série de la première aventure à la dernière aventure.
Et de toute façon, il en reste encore au moins un inédit à paraître bientôt, dans le prochain trimestre, chez Rivage.
Et donc, celui-là sort dans la collection Rivage Thriller, mais on peut dire que un hors-série, c'est-à-dire hors des deux grands personnages récurrents de Donald Westlake, que sont les personnages de Parker et de Dortmunter, il y en a un qui ressort chez Rivage Noir, la collection de poche de Paillot Rivage, et c'est un livre sur les dessous d'Hollywood. Là aussi, on s'amuse bien et ça s'appelle « Monstre sacré ». Voilà. Un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Un extrait du récent album de David Crosby. Vous savez, celui de Crosby, Stills & Nash & Young.
Ça dépend des fois.
Voilà. Le disque s'appelle « Cross ». Cross, c'est le petit surnom que les fans ont donné, le surnom amical que les fans ont donné à Crosby. Et c'est son premier album solo depuis près de 20 ans. Et c'est, disons, un bon cru. Un bon cross, je dirais donc. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle...
Mais pas Hermitage,
bien évidemment. Le morceau que nous allons écouter s'appelle If She Called, si elle appelle donc.
Maybe arches her back. There's nobody there to see when she's doing that. The guy's not there, he just doesn't exist. She's looking at empty space when she's doing this. She might walk home. She's kind of tired. Or spend some of the money on a cab she's hired. Below a bus groans by and splashes a man. He swears at a drunkard's curse on the whole damn world. She smiles at this and then starts to cry. Scrubs at a spot on her leg and then lets it dry. Then she's sitting on the floor with her head hung down. Listening to another language on TV. Unaware. Karen Bell. Wondering where her mother and father might be. She dreams, don't we all dream? A place away, a recurring theme. She remembers a time when love was alive. Somehow it gets lost in the sound of the city's morning drive. Lost in the sound of the city's roaring
Voilà donc David Crosby, c'est un des rares morceaux de l'album où il joue de la guitare. Il est accompagné pratiquement tout le temps par un multi-instrumentiste qui s'appelle Marcus Eaton, mais il y a aussi quelques invités de prestige comme Wynton Marsalis ou le guitariste Mark Knopfler. D'ailleurs, le morceau n'est pas terrible, mais bon, Mark Knopfler, c'est... certains l'aiment.
Beaucoup. Ben moi, je voudrais profiter donc d'avoir parlé de Top Réalité pour redire un petit peu à quel point Donald Westlake était un auteur aussi génial que prolifique. Comme je le disais dans la première partie d'émission, Donald Westlake, vous pouvez quand même avoir à votre disposition plus de 40 romans noirs, dont 15 de la série des John Dortmunter, donc sous le nom de Donald Westlake. Sous le nom de Donald Westlake, il y a aussi 22 qu'on appelle hors-série parce qu'ils sont ni d'une série ni de l'autre. Alors dans ces 22, je ne saurais trop vous conseiller de lire 361. C'est un des premiers et c'est un des meilleurs. Mais il y a le Couperet, qui est un magnifique roman noir. Peut-être son roman le plus noir et le plus abouti. Enfin,
et un must absolu. Hein.
Un must absolu. D'ailleurs, il y a eu une adaptation cinématographique. Et puis, Motus et Bouche Cousue et Mémoire Morte. Voilà, deux autres. Ensuite, dans les Dortmunter, donc 15, donc un recueil de nouvelles. Et puis, sous le pseudonyme de Richard Stark, parce que Westlake expliquait qu'aux États-Unis, il fallait quand même s'occuper d'aider les gens à prendre leurs repères. Eh bien, il y en a 15 consacrés à un autre cambrioleur, mais là, c'est un tough guy qui s'appelle Parker. Voilà, n'oubliez pas ce nom, Donald
adapté
Westlake.
Adapté au cinéma aussi, et moins pire que qu'on aurait pu le penser avec Jason Statham.
Voilà.
Les infos, bientôt.